Dans l'étude de la formation du contrat, nous allons consacrer quelques développements au nouveau devoir général d'information, du moins au devoir général d'information tel qu'il est maintenant reconnu par l'article 1112-1 du Code civil. Et pour en parler, je suis avec Stéphane Sylvestre, qui est docteur en droit et avocat associé du cabinet Intervista.
Bonjour, monsieur le professeur.
Merci, cher maître. Donc, article 1112-1, nous le prenons, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son co-contractant. Donc, nous gardons le texte un instant pour voir qu'il faut une information dont l'importance est déterminante pour le consentement. Donc une information importante. Si une partie détient cette information, elle doit informer l'autre partie qui ne l'a pas. Dans deux hypothèses, dès lors que soit l'autre partie légitimement ignore l'information, soit fait confiance à son co-contractant. Alors déjà, c'est un peu étonnant, non, cette idée de condition du contrat où on fait confiance. Est-ce qu'on ne se fait pas confiance dans tous les contrats ?
Eh bien, malheureusement, non, puisqu'il y a un certain nombre de contrats dans lesquels les intérêts des parties ne sont pas forcément convergents. Dans une vente, par exemple, le vendeur veut vendre au meilleur prix, il aura peut-être parfois tendance à cacher un certain nombre d'informations. De la même manière, l'acheteur, il veut également vendre, mais au prix le plus bas possible. Donc, la confiance n'est pas forcément naturelle dans le cadre d'un processus contractuel.
D'accord. Donc, c'est sans doute un certain type de contrat qui est visé par là. Ce serait le contrat de mandat, le contrat qu'on peut avoir avec son avocat. La jurisprudence avait d'ailleurs identifié ce type de relation précisément comme relation de confiance.
Oui. Oui, tout à fait. Le mandat et la confiance est consubstantielle au mandat. Les relations entre un avocat et son client sont également empreintes de confiance, ou en tout cas devraient l'être. Et on peut effectivement imaginer que c'est ce type de contrat qui est visé. Maintenant, est-ce qu'il suffira de mettre dans certains contrats une clause de confiance ou une clause de défiance pour effectivement
article premier,
éviter...
Les parties ne se font pas confiance.
Voilà, pour éviter cette obligation d'information, là, je ne pense pas que ce sera suffisant.
D'accord. Donc, dans certains contrats particuliers, il faudra informer l'autre partie qui ignore l'information alors même que ce ne serait pas légitime. L'avocat qui a une information doit la communiquer à son client. Peu importe que si le client ignore, ce soit pour des motifs non légitimes. Quand on nous dit dès lors que légitimement l'autre partie ignore l'information, l'idée c'est que, hors contrat de confiance, du coup dans une vente par exemple, ce qu'on veut c'est que, ce n'est pas toutes les informations qu'on doit systématiquement communiquer, mais en fait ce sont des informations que l'autre partie n'a pas recherchées, alors que... L'idée, c'est le légitimement, me semble-t-il, c'est que si elle n'a pas ces informations, c'est pour de bonnes raisons. C'est pas parce qu'elle n'a pas fait ses devoirs, en somme. L'idée, c'est qu'elle n'a pas ces informations parce que, par exemple, il n'est pas possible de les avoir. Dans une vente d'entreprise, on pourrait imaginer l'entreprise qui est vendue, le vendeur sait et est le seul à savoir que l'entreprise vient de perdre son plus gros client.
Oui, ou qu'il va y avoir un contrôle fiscal qui risque effectivement de mettre l'entreprise sur la paille.
Voilà. Donc ce type d'information, légitimement, l'acheteur ne peut pas les connaître parce qu'il ne lui est pas possible d'y accéder. Et donc dans cette hypothèse, on comprend qu'il y a une obligation d'information qui pèse sur celui qui la détient. Donc ça, c'est notre devoir général d'information. Je précise et je rappelle que dans le projet d'ordonnance qui avait été soumis à consultation publique, on nous indiquait celle des parties qui connaît ou devrait connaître une information, ce qui était pour le coup, ce qui ouvrait un vaste champ d'incertitude, parce que qui devrait connaître, cela voulait dire que le juge allait se demander à chaque fois, mais est-ce que ce n'est pas cette partie avait l'information, mais c'est elle aurait dû raisonnablement l'avoir.
Oui, et ce qui voulait dire aussi, si on avait adopté cette rédaction, que les parties se mettaient complètement dans la main du juge pour savoir quelle était l'information que l'une des parties aurait dû ou n'aurait pas dû connaître.
D'accord. Donc, on a effectivement ce devoir général d'information. On a des précisions qui ont été apportées pour savoir quelles sont les informations concernées. Ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Donc le vendeur n'a pas à dire à l'acheteur « Attention, le bien que je vous vends vaut en réalité beaucoup moins cher que ce que vous êtes en train de payer. » Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. On comprend que le vendeur, par exemple, n'a pas à informer l'acheteur du contexte économique, du fait que des études montrent que ce secteur d'activité va péricliter dans les années à venir. Voilà. L'idée, c'est qu'on doit informer que sur, que vraiment sur l'objet du contrat, pas sur tout le contexte.
Et c'est d'ailleurs de cette manière que cela se passe, notamment dans les hypothèses de vente d'entreprise, puisque, effectivement, dans ces cas-là, on demande très fréquemment aux vendeurs de donner un très grand nombre d'informations sur l'entreprise qu'il vend, sur sa situation comptable, sa situation financière, sur ses contrats, sur ses salariés, sur sa situation au regard de la fiscalité. Donc, effectivement, là-dessus, la réforme du Code civil ne fait que reprendre un certain nombre de pratiques qui étaient de longue date appliquées par les praticiens.
D'accord. Alors, deux points. Premier point, vous évoquez la contractualisation de l'information, le fait que les parties vont volontairement se donner de plus en plus d'informations. L'idée étant quand même que si on fait ça, c'est pour arriver à se sécuriser, à sécuriser la relation. On demande des informations aux vendeurs, l'idée étant qu'on ne viendra pas reprocher aux vendeurs ensuite qu'il n'a pas fourni suffisamment d'informations. Et c'est là peut-être que le texte présente des dangers. Parce que le texte nous dit, bon, d'abord, il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Mais surtout, on nous dit, les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Et c'est là qu'on est un peu inquiet, parce que on peut encadrer contractuellement l'information, demander toutes les informations possibles aux vendeurs, assurer aux vendeurs que s'il les donne, eh bien, il aura satisfait cette obligation, on ne pourra pas lui reprocher par la suite de ne pas avoir fourni l'information, demander à l'acheteur d'indiquer qu'il a été suffisamment informé, mais finalement, tout ça pourrait très bien sauter dans la mesure où l'acheteur pourra dire après, eh bien, moi, je ne m'estime pas suffisamment informé parce que vous n'avez pas respecté votre devoir général d'information du Code civil et que même si on avait contractualisé l'information, c'est-à-dire prévu contractuellement quelle information donner et indiqué que si elle était donnée, alors l'acheteur était suffisamment informé, eh bien, l'acheteur pourra toujours aller chercher en plus le devoir général d'information. Est-ce que cela ne provoque pas des inquiétudes chez un praticien ?
Alors, à la fois, cela provoque un certain nombre d'inquiétudes, vous avez raison, mais pour autant, là encore, dans la pratique, le vendeur, par exemple, essaie justement de donner le maximum d'informations à son acheteur, justement pour qu'on ne vienne pas lui reprocher ensuite de ne pas avoir satisfait à son obligation d'information. Alors maintenant, je vois mal des situations dans lesquelles on contractualiserait pour limiter en disant « je vais vous donner toutes les informations en matière financière, mais surtout je ne vous dirai pas qui sont mes salariés ». En revanche, ce qu'on peut tout à fait imaginer dans un processus d'acquisition, par exemple, justement afin de conserver une certaine confidentialité aux opérations, c'est que l'on donne un certain nombre d'informations sur son chiffre d'affaires, mais que l'on ne donne pas le nom de ses clients. Et à ce moment-là, le fait qu'on ne puisse ni limiter ni exclure ce devoir d'information, ça peut éventuellement poser problème.
Oui, c'est intéressant. Ça serait l'idée qu'avec le devoir général d'information, on pourrait venir faire tomber la confidentialité.
Exactement. Et même si la confidentialité a justement été reconnue dans cette réforme du Code civil et que cette confidentialité est fait désormais l'objet d'un article spécifique du Code civil, c'est vrai que on voit
l'article suivant.
L'article suivant, effectivement, on voit bien la difficulté qu'il peut y avoir, le conflit même entre ce devoir général et quasi absolu, finalement, d'information, puisqu'il ne peut être ni limité ni exclu, et d'un autre côté, la reconnaissance de cette obligation de confidentialité.
Dernière précision sur le rapport entre ce devoir général d'information et les vices du consentement. Alors il faut comprendre que ce devoir général d'information semble assez proche de la réticence de l'OSIF, c'est-à-dire du vice du consentement, que nous verrons par ailleurs, et qui est constitué par le fait de ne pas donner une information, mais de ne pas la donner de manière intentionnelle. Donc l'idée, c'est que si je ne donne pas une information et que je le fais de manière intentionnelle pour tromper mon co-contractant, alors il y a vice du consentement, il y a responsabilité civile, ou il peut y avoir responsabilité civile, il peut y avoir annulation du contrat. L'obligation générale d'information ne suppose pas, je ne vous donne pas une information, mais sans qu'il soit besoin de démontrer que je le fais pour vous tromper, je peux le faire par simple négligence, et à ce moment-là, ça n'ouvre pas, ça ne donne pas lieu à annulation du contrat. Quoique, du fait de l'obligation générale d'information, il pourrait y avoir une erreur vis du consentement, entraînant la nullité, mais ça peut donner lieu, en toute hypothèse, à indemnisation de l'autre partie. Eh bien, je crois que nous avons vu ce devoir général d'information donc consacré par l'article 1212-1 du Code civil. Merci beaucoup.